Bienvenue dans Rared Free Europe, le podcast qui analyse le rôle du Portugal et de la CIA lors de la guerre froide. Présenté par Antoine Thirion, il vous propose de plonger, en 5 épisodes, au cœur des années 50 et 60 pour tenter de comprendre le rôle joué par ces différents acteurs. Hypocrisie, ingérence politique et rôle des médias, rien n'y échappera. Épisode 5, la non-fin justifie les moyens.
Ce jingle, c'est celui de la première chaîne de TV belge. Elle n'a en tant que telle joué aucun rôle dans notre histoire, mais elle représente ce qui va tout changer pour Radio Free Europe, l'émergence de la télévision. Car si les soulèvements de Berlin 1953 et Budapest 1956 étaient la propriété de la radio, le printemps de Prague inaugure une situation de coexistence entre la voix hertzienne et sa nouvelle concurrente. Encore l'exclusivité de l'élite dans les années 60, le petit écran s'est démocratisé lorsqu'éclatent les troubles suivants au sein du rideau de fer. Gdansk 1980 et Solidarnosc sont évidemment relayés par la radio, mais ce sont les images d'une Pologne rebelle qui vont marquer. Pour la première fois, c'est l'Ouest qui reçoit massivement l'Est. En 1989, Radio Free Europe joue encore bel et bien le rôle de déclencheur de la révolution de velours en annonçant la fausse mort de l'étudiant Martin Schmidt. Mais c'est à nouveau la télévision qui joue le grand rôle lors de l'émancipation définitive de la Tchécoslovaquie. Ce sera encore plus le cas quelques mois plus tard seulement, lorsque le mur de Berlin s'ouvre après près de 40 ans de séparation. À partir des années 70, au moment où la télévision prend son envol, les audiences des radios internationales commencent à chuter progressivement. Learning to live together in peace is the most important issue for the Soviet Union and the United States. It is simply not within the legitimate range of our foreign policy to instruct the Russians on how to treat their own people. In trading with the Russians, I think it's high time that we be a little bit wise. En février 1967, le journal Rempart révèle les liens financiers entre la CIA et différentes organisations civiles. Le New York Times et le Washington Post font rapidement figurer Radio Free Europe parmi les organisations en question. La pression ne cesse de grandir et pousse le président Lyndon Johnson à demander à la CIA de cesser ses pratiques. En 1968, pour la première fois de son histoire, RFE connaît une restriction de budget. Au début des années 70, la guerre froide connaît une sérieuse détente entre les deux protagonistes et l'existence de Radio Free Europe est remise en question. Le débat va cristalliser le Congrès et le Sénat pendant 2 années complètes. Lassé de ce sujet qui n'avance pas et soucieux de conserver cet allié hertzien précieux, Richard Nixon fonde, le 19 octobre 1973, le Board for International Broadcasting pour chapeauter RFE. La radio devient alors un outil officiel de la politique de communication internationale américaine. En 1976, Radio Free Europe fusionne avec Radio Liberty, son équivalente à destination de la Russie. En 1975, les accords de la conférence sur la coopération et la sécurité en Europe apportent une légitimité internationale à l'action des radios occidentales. Avec l'usage et sa reconnaissance légale, la stratégie propagandiste se pacifie. Mais attention, leur objectif n'a pas changé. Elles soutiennent toujours les efforts de l'opposition au sein des pays de l'Est. Sous la présidence de Jimmy Carter, elle est justifiée au nom des droits de l'homme. Ronald Reagan préférera, lui, parler d'une bataille pour la vérité. Malgré le retrait de la CIA, le soutien de Radio Free Europe par les plus hautes instances américaines n'a jamais tari. Son budget, par contre, ne cesse de fondre. En 1980, l'administration investit autant dans un seul bombardier B1 que dans le fonctionnement annuel de tout le réseau RFE. Depuis son lancement jusqu'à la moitié des années 80, les soviétiques prennent Radio Free Europe très au sérieux et investissent massivement pour la neutraliser. Mais la politique de glasnost inaugurée par Mikhail Gorbatchev change la donne puisqu'elle met fin à leur brouillage. La société communiste s'ouvre de plus en plus, la propagande se révèle de moins en moins efficace. En 1982, 68% des habitants du bloc de l'Est consultaient RFE avant de partir à l'étranger, ils ne sont plus que 49% 7 ans plus tard. Les responsables de Radio Free Europe, Radio Liberty, doivent repenser leur mission, d'autant plus que l'URSS disparaît subitement en 1991.
شنوندگان محترم، اینک راجع به بیانات رئیس جمهور اعضای متحده امریکا رونالد ریگان در رابطه با قضیه افغانستان گزارش خدمت شما تقدیم می‌داریم.
Face au déchirement de la Yougoslavie, Radio Free Europe, Radio Liberty fait des Balkans occidentaux sa nouvelle cible dès 1994. Dans les 15 années qui suivent, le réseau se tourne également vers l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak et le Pakistan pour fournir une alternative à la propagande extrémiste. En 2019 et 2020, les deux radios ont lancé des plateformes numériques pour lutter contre la désinformation et le déclin du pluralisme des médias en Bulgarie, Hongrie et Roumanie. La fin de la guerre froide n'a pas refroidi Radio Free Europe, il y aura toujours des territoires à pénétrer. Après 40 ans d'enfermement dans le carcan d'un seul homme, le tournant des années 70 préfigure de grands changements pour la population portugaise. En septembre 1968, Salazar est victime d'un accident cérébral foudroyant. Il est écarté de la vie politique et mourra 2 ans plus tard sans savoir qu'il ne dirigeait plus le pays. Entre-temps, Marcelo Caetano est nommé à la tête de l'État pour incarner le changement dans la continuité, mais cette période de transition est un échec. Pendant plusieurs années, une succession de batailles en interne détournera le regard du pouvoir politique loin de Raret, qui vit alors sa vie dans son coin. Et lorsque la révolution des œillets ramène la démocratie au Portugal en 1974, les considérations principales sont loin d'un émetteur américain perdu en pleine campagne. Raret tombe dans l'oubli. Pourtant, en interne, la station n'a jamais été aussi active. Grâce à la compétence technique de ses ingénieurs, le centre émetteur de Gloria devient la référence de l'ensemble du réseau de Radio Free Europe. C'en est fini du matériel périmé depuis des années. Au milieu des années 70, la station est devenue l'un des centres émetteurs de diffusion les plus puissants au monde et des techniciens de Voice of America y sont même envoyés pour se perfectionner. Impressionné par sa réputation en interne, Ronald Reagan veut à tout prix observer Raret de ses propres yeux lors de sa visite au Portugal en 1985. Il faut dire que les exploits des ingénieurs portugais ont ridiculisé des cadres de Radio Free Europe au diplôme pourtant bien supérieur sur le papier. Les locaux de Munich se plaignent d'une baisse de qualité sonore entre les enregistrements tournés en Allemagne et les émissions retransmises depuis Gloria. Ils sont persuadés que le problème vient de Raret. Pourtant, quand un émissaire est envoyé sur place, il est impressionné par la compétence des techniciens portugais et l'excellente tenue du matériel à disposition. Sur leur conseil, ils décident alors de tester la bande passante dans plusieurs séances via différents exercices. En quelques heures seulement, le problème est découvert. C'est l'émetteur allemand Dolskirche qui envoie au Portugal des programmes en mauvaise qualité, par Raret qui les reçoit mal. En interne, c'est un camouflet sans précédent. Plusieurs responsables de la station allemande seront licenciés pour avoir accusé les Portugais d'incompétence. Maintenant qu'elle est pleinement consciente de son atout, la direction de Radio Free Europe veut capitaliser sur sa frange portugaise. L'émergence de la télévision entraînant la diminution du temps d'antenne, elle demande à Raret, au début des années 80, de se désintéresser du simple relais de programme pour un autre objectif, développer une nouvelle technologie. En quelques années seulement, l'émetteur de Gloria développe la retransmission par satellite. Elle ne servira que très peu au réseau RFE, mais elle restera gravée dans la postérité. L'Allemagne, en relation étroite avec le Portugal au sein de Radio Free Europe, réutilisera une partie des travaux de Raret pour mettre sur pied la chaîne de télévision satellite franco-allemande Arte.
Et voici, mesdames et messieurs, en avant-première mondiale, et exclusivement pour vous, la télé qui vous interpelle, la télé qui dérange et qui va vous changer la vie.
Bienvenue sur Arte.
Gloria survivra 5 ans à la chute de l'URSS en se consacrant à des recherches en matière de télécommunications. En 1996, la station ferme définitivement ses portes. Elle est aujourd'hui encore laissée à l'abandon, tombée dans l'oubli le plus total. Sa propriété est toujours privée, cloîtrée derrière de grandes clôtures de barbelés, mais plus personne ne la revendique. Raret n'est plus une exploitation américaine depuis 1973, comme le prévoyait le second contrat, signé 10 ans plus tôt. Quant au gouvernement portugais, il n'a jamais voulu reconnaître cette installation, peut-être la honte d'avoir participé à une telle ingérence. Créée pour contrer la menace communiste en Europe, Radio Free Europe ne s'est finalement pas contentée de sa mission initiale. Malgré la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide, la station américaine existe toujours. Ses quartiers généraux ne sont plus à Munich, mais à Prague, depuis l'indépendance de la République tchèque. Ses cibles et les zones vers lesquelles elle émet ont également changé. Le danger du XXe siècle était les soviétiques. Selon RFE, le danger du XXIe siècle se trouve au Moyen-Orient.